France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Avant d'être une source de profit pour les ultra-riches, le football est un vecteur de lien social et un jeu universel. Loin de la lumière des projecteurs, loin des transferts records et des grandes institutions corrompues, c'est un sport simple qui a pour vocation de tisser des liens entre des individus. Jouer au football, c'est faire partie d'une équipe, d'un bloc collectif qui se doit de travailler ensemble pour réussir. C'est un sport qui peut permettre à celles et ceux qui vivent dans la marge de retrouver de la joie collective, de se fondre dans une structure où chaque individu veut théoriquement le bien de l'autre. Ce numéro de Sur les Docks de Sacha Guillaume, diffusé pour la première fois le 19 octobre 2006, le premier d'une série de deux épisodes consacrés aux footballeurs SDF, donne à voir une autre face du football. Si le jeu lui-même est souvent noyé dans un océan d'enjeux économiques, dans une course effrénée au profit, en ce qui concerne le monde professionnel, la pratique amateur, et notamment associative, se révèle être un véritable vecteur d'intégration sociale, notamment pour les plus précaires. Ce documentaire propose ainsi une immersion dans les préparatifs de l'équipe française de la Coupe du Monde de football des sans-abri, tenue en 2006 au Cap, en Afrique du Sud. On y entend aussi bien les bénévoles d'associations que les sans-abri eux-mêmes, expliquant la difficulté de concilier la discipline d'entraînement hebdomadaire avec un quotidien imprévisible, souvent phagocyté par l'alcool et autres substances stupéfiantes. Oscillant entre la joie partagée du football et la difficulté d'un quotidien souvent morne, Toussaint, Karim et les autres racontent l'espoir suscité par cet événement annuel hors du commun, qui donne l'espace de quelques semaines un foyer commun à celles et ceux qui n'en ont pas. Footballeur SDF, première partie, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Sur les docks. Bonjour, sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. En juillet 2006, plus d'un milliard de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur la finale du Mondial qui se déroulait en Allemagne. Une Coupe du Monde bien différente et très peu médiatisée a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, entre le 21 septembre et le 1er octobre de cette année. Les équipes étaient composées uniquement de joueurs sans domicile fixe. Sacha Guillaume les a suivis lors de leur entraînement, du voyage en Afrique du Sud et de la finale où 48 nationalités étaient en compétition. Découvrez tout de suite le documentaire de Sacha Guillaume et Nathalie Battus, footballeurs sans domicile fixe.
Allez, c'est côté, pas côté, les gars. Il n'y a pas de gardien, les gars. Allez. Très bien, ami. Et on. Ah, des pompes. Allez, on y va.
Okay. Quoi que ce soit, c'est pas en se concentrant sur le problème 24 heures sur 24 heures qu'on arrive à s'en sortir. Même tout travailleur a besoin des vacances. Nous, les samedis, de 9h à 14h, c'est des vacances qu'on prend avec nos problèmes.
Allez, on y va. Je récupère le rythme normal, hein, parce que j'étais décalé à cause de mon errance. Les années passent tellement vite en fait que on a 20 ans, on est dans la galère, à 25 ans on est encore dans la galère. Donc on se dit que ce que j'ai fait ces 5 dernières années, on fait un bilan, on s'aperçoit qu'il s'est pas passé grand chose. À part le sport, la santé, tout machin, oui, mais sans plus quoi. Administrativement c'est toujours pareil en fait, il n'y a pas de différence.
Il y a certains qui sont à l'heure, mais il y a d'autres, l'heure pour eux c'est très élastique quoi. C'est pas si évident que ça, mais bon, ça marche. Faut être patient. On va y arriver, on y arrive. Les choses dans la motivation pour être en Afrique du Sud. Ils viennent plus d'entraînement, c'est quelque chose. Donc, on fera avec.
La Coupe du Monde des sans-abri, première partie.
Moi, j'admire énormément Justin. Parce que qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe en tant que capitaine? Alors qu'il n'a rien, qu'il n'a pas de papier, qu'il est menacé, qu'à tout moment, il peut se retrouver dans un centre de rétention, Il se prend la responsabilité de capitaine de l'équipe. Il est complètement autonome dans la façon dont il fonctionne. Et son credo, c'est de la solidarité entre les joueurs et avec les autres équipes. Si Kader est ce qu'il est aujourd'hui, c'est Justin qui lui a porté ses panneaux. C'est pas mal, je trouve. Pour un travailleur social, ne pas intervenir directement, mais créer les conditions pour que, effectivement, ce qui se passe entre eux
oui,
et avec nous, on est cassé la relation assistant-assisté, c'est fini. Et je pense que c'est ça, l'Afrique du Sud.
Moi, j'ai mis 2 semaines pour réaliser. J'ai mis à peu près une bonne quinzaine de jours pour réaliser que je partais, quoi. Je me suis réveillé un matin, j'ai appelé Jean-Luc m'a dit comme quoi je partais. Ça m'a fait un... Là encore, j'essaie de me remettre, là encore. Donc, dans ma situation à moi, forcément, il y a cette logique, se dire on va pas en Afrique du Sud tous les jours. D'avoir pris la place à Kader, pour moi, c'est énorme. Parce qu'à la base, c'est lui qui devait partir. Donc moi, de partir à sa place et de m'avoir sélectionné, surtout, c'est... Alors là, c'est encore plus... Je vis avec pour l'instant. Donc une fois que je serai là-bas, mon pied en Afrique, je dirais merci la pause, merci le sud de Paris, merci tous les gens qui ont contribué à ce voyage, quoi. Franchement, merci. Mille fois merci.
La Coupe du Monde des Sans-Abri, ou Homeless World Cup, existe depuis 2003. Elle a été créée sur l'initiative de Mel Young, entrepreneur social écossais, qui avant de devenir président du réseau international des joueurs de rue, était journaliste. Cette autre Coupe du Monde de football trouve son financement auprès de l'ONU, de l'UEFA, l'Union Européenne de Football, et des amendes payées par les joueurs et les clubs professionnels en infraction. Pour cette 4e édition, c'est la ville du Cap en Afrique du Sud qui a accueilli les 48 pays présents et près de 100 000 spectateurs. Une répétition un peu particulière avant la Coupe du Monde professionnelle prévue en 2010.
En fait, ça a démarré. Samedi matin.
Jean-Luc, cadre à la poste et bénévole à la pause, un accueil de jour des Hauts-de-Seine.
On était là, on commençait à tourner en rond et on s'est dit, comme ça, mais par hasard, si on allait taper une balle sur la pelouse en bas du parc.
D'accord.
On a commencé à faire. On était 4, mais on ne faisait pas une équipe, hein, on jouait à la balle. Et puis il y avait un groupe qui était là, et puis on a joué un peu avec eux. Puis le samedi d'après, toujours pareil. Et puis en fait, on jouait à la balle, mais on faisait pas de match, on allait jouer comme dans la rue, quoi.
Et Kader était là.
Et Kader était là dès le début, oui.
Et Karim était déjà là ou pas ?
Non, Karim n'était
pas là, je suis arrivé bien après.
D'accord.
Il y avait donc Ali, Ahmed, donc il y avait un petit groupe.
Un petit groupe.
Et puis on jouait au milieu des gens, quoi. Petit à petit, on jouait, on allait, parce qu'il y a des terrains ouverts dans la ville d'Antony. Voilà. Et on a eu un message l'année dernière, au mois de février, comme quoi il y avait un tournoi des accueils à Toulon. Et là, on a eu un peu l'idée, un déclic en février. On s'est dit, on passe de l'idée de jouer à la balle, de taper dans le ballon, comme ça, pour s'occuper, à préparer un tournoi avec d'autres accueils.
Ça, c'était en février de quelle année ?
C'était en février 2005, donc d'accord. Il y a très peu de temps.
Oui.
Et c'est à partir de là qu'on a parlé d'entraînement. C'est que depuis l'année dernière, en février 2005, qu'on a dit, on va faire des entraînements. Et là, c'était intéressant, c'est qu'on a dit, pour aller à Toulon, il faut que les gens y soient allés à 5 entraînements sur l'hiver.
Donc c'était dans la perspective de jouer
dans
à
la perspective de faire une sélection où tout le monde aurait voulu aller à Toulon. Mm. Aller passer 3 jours à Toulon quand on est dans la rue, dans un squat. Comme nous, on est une assoce de bénévoles, on est parti avec nos voitures, on est parti avec l'argent qu'on a récupéré du Secours catholique. Bon, on pouvait pas se permettre, on n'avait pas les moyens d'emmener 20 personnes, quoi. Mm. Donc à partir de ce moment-là, ça s'est structuré sur l'idée d'une équipe.
D'accord.
Sur l'idée d'un entraînement, sur l'idée d'être régulier. Les 8 qui sont partis à Toulon, c'est ceux qui avaient fait 5 entraînements.
Alors donc, il y a eu Toulon.
Il y a eu Toulon la première année. Et puis, à Toulon, on a rencontré les gens de Paris. Et
les gens de Paris,
l'équipe de Benoît Dano,
d'accord,
qui évidemment avait dominé le tournoi, parce que ça fait 10 ans qu'ils jouent au foot. Et c'est là qu'ils nous ont invités à faire un match l'année dernière, un tournoi à Vincennes, au polygone de Vincennes. Et donc on a fait ce tournoi, on s'est régalé aussi. Hein. On a passé une super journée avec pique-nique, enfin vraiment les bénévoles, tout le monde y était, quoi. On était une bonne trentaine. Et c'est là qu'est née l'idée de se dire, c'est bien de faire un tournoi par an, mais si on faisait un championnat. Et du coup, nous, on s'est retrouvés dans une situation un peu difficile, parce que tous les accueils qui étaient là, c'est des accueils avec des salariés, avec des accueils couvre tous les jours, des grosses structures. Hein, Paris reçoivent 80 personnes par jour. Enfin, c'est vraiment... Et nous, on était le petit pousset de cette bande-là. On est vraiment le petit pousset, parce que, bon, ben... Faut pas se cacher, hein. 1er mars, l'hiver, s'il y a deux personnes à l'entraînement, c'est le bout du monde, hein. Quand il neige, qu'il fait froid, les gens qui sont dans un squat au nord de Paris, faut se lever à 7 heures du matin.
Oui, il faut réussir à arriver.
Ne pas avoir bu trop la veille. Enfin, pour beaucoup, c'est quand même compliqué de se dire un dimanche matin, je vais me lever pour aller jouer au foot dans le sud de Paris. Enfin, ça suppose un effort, une organisation du samedi pour pas être complètement HS, hein, c'est clair. Hein. Et du coup, bon, nous, on est une petite équipe qui peut se retrouver à 6, comme on peut se retrouver à 2, à 8 et 9. Voilà.
Allez, alors. Après ça ira, ça fait mal les premiers jours, après ça ira.
Ça fait du mal. C'est mieux quand même. Allez. Descends.
Le plus possible. Si ça fait trop mal.
J'ai l'habitude de prendre les cartons, alors mon deuil, les choses. Allez, hein, descends. Encore.
Karim, 25 ans, franco-algérien, joueur de l'équipe de la pause, sélectionné pour faire partie de l'équipe de France des sans-abri.
Voilà.
Je joue au foot et je fais du théâtre en plus. Et là, j'ai un spectacle mardi, là, donc mardi soir. C'est à Belleville, ça se passe à Belleville. C'est pour la Croix-Rouge, ce qui s'appelle Le Passage, et qui est assez reconnu un peu sur Paris. Ça fait comme une quinzaine d'années que ça existe. Donc à chaque fois, tous les fins d'année, en fait, je fais un spectacle pour eux. Ça fait déjà 4 ans que je les connais. Et là, j'ai ma dernière année avec eux, et après, je sais pas. C'est un appui un peu psychologique, quoi, pour nous aider un peu à s'en sortir. Mais ça fait 4 ans que je vais chez eux, enfin, que là où je fais du théâtre, tout ça, donc mes activités, ça n'a pas forcément changé grand chose dans ma vie, quoi. Ils voient que vous travaillez, ils voient que vous êtes opérationnel, que vous pouvez vous en sortir et tout, mais ils font pas plus, quoi. Eux, ils finissent à 7h, ils savent qu'ils vont rentrer chez eux, ils ont un chez eux. Moi, je finis à 7h, je sais que ça se trouve, je vais dormir sous un pont si je fais pas le 115 ou si je fais pas. J'ai déjà dormi au Cache Nanterre, j'ai déjà dormi à des endroits, vraiment, vous vous demandez s'il y a une vie là-dedans, quoi. Enfin, c'est... Enfin, voilà, quoi.
Ça doit être un peu compliqué, en plus, parce que jouer à Anthony, t'as des entraînements
régulièrement. Oui, carrément, le dimanche matin.
D'accord.
Donc, ça me pousse des fois à dormir sur Paris, sur un banc ou sous un pont, pour pouvoir accéder aux entraînements le dimanche matin. C'est pas évident, c'est un peu incompréhensible, mais c'est comme ça que je vis, quoi.
D'accord.
Donc, j'ai énormément. Moi, c'est mon seul problème, c'est l'hébergement. C'est tout. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est mon seul problème.
Et le foot ?
Ah, le foot, j'adore. Le foot, par contre, comme j'en ai fait étant petit, j'avais un niveau CFA. Et comme je vous ai dit, donc j'ai raté le coche. Et en espérant reprendre, et en fin de compte, 4 ans, 5 ans est passé sous mon nez. Le temps passe tellement vite, en fait, qu'on se rend pas bien compte, quoi. C'est comme si je suis tombé en galère hier, quoi, en fait, pour moi. Et ça fait 5 ans déjà. Et j'attaque déjà ma 6e année. Donc
là, c'est la première rencontre avec.
Avec l'équipe, voilà, exactement.
Pour la Coupe du Monde.
Voilà.
Donc on va voir au fur et à mesure comment ça va.
Bah, déjà, le fait.
Comment
de...
tu le sens, toi ?
Bah, moi, je le sens bien, personnellement. Enfin, sur le terrain, bon, un peu, on s'est un peu enguirlandé tout à l'heure, mais c'est normal parce qu'on se connaît pas, tout ça. Donc il y a plein de choses à remettre en point. Mais rien que le fait de représenter la France, déjà, pour moi, c'est énorme.
La France, la France, la France, la France, la France, la France.
C'est-à-dire on va vite. Et on n'a pas cette phase de décantation entre la réalité et le rêve. C'est-à-dire, en fait, on se retrouve dans une situation où on crée un rêve et qui devient accessible. Et je ne suis pas très sûr que ce qu'on a fait était une bonne idée. Et je ne suis pas très sûr, et quand j'y réfléchis, je me demande, est-ce que ça a vraiment été une bonne idée de proposer à Karine cette espèce de truc ? Parce que quand tu regardes le foot normal, avant d'aller en Coupe du Monde, tu as quand même un parcours. C'est-à-dire, il y a une espèce. Et là, parce que tu as une pyramide entre le joueur qui, tu vois, qui commence, le minot, qui commence et qui se retrouve, qui s'appelle Zidane, il y a eu un sacré fil de sélection. Et le rêve, enfin, pour Zidane, c'est pas un rêve.
Non,
c'est pour Zidane, années. C'est des années de travail.
Ouais.
C'est une vie de travail. Et alors là, tout d'un coup, on se retrouve au Pinac, on les met au Pinac. Quoi dans leur esprit, c'est la même chose. Oui, on les met au pinacle sans qu'il y ait eu ce travail de décantation, de construction et tout. Et résultat, c'est plus dur sera la chute. D'où ma très grande inquiétude j'aimerais bien que cette équipe, enfin qu'avec cette équipe qu'on envoie en Afrique du Sud assez rapidement, je veux dire, c'est quasiment en claquant des doigts, même si on a été attentif dans les critères de sélection, qu'on n'a pas créé qu'en fait chacun est envoyé par son équipe, qu'il y a une espèce de cohésion. Et donc c'est pas moi, de toutes les actions du collectif qu'on peut faire, c'est celle qui me pose le plus de questions, la Coupe du Monde. Et puis alors, par contre, je trouve que l'essentiel de notre boulot, c'est l'entraînement.
Bien sûr.
C'est à l'entraînement que se joue. C'est par l'entraînement que se joue ce qui est en train de se passer autour du foot. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas s'entraîner sans compétition. La compétition donne du sel.
Hein. Oui, bien sûr.
C'est le sel qui permet aux gens de supporter, de se lever à 6h du matin, de quitter son squat à 6h du matin, de faire une heure de métro, alors que la nuit on a mal dormi, et puis de se retrouver alors qu'il fait... 8 degrés sur un stade en short avec des chaussures pourries et sur une pelouse qui glisse. Il faut quand même aussi se dire qu'à un moment donné, ceux qui sont là ont traversé des périodes un peu difficiles, quoi. Parce que c'est un peu difficile de sortir de son lit douillet pour aller taper dans la balle quand
ça l'est déjà, oui.
Ça l'est déjà quand on est bien et qu'on sait qu'on va retrouver sa douche, qu'on va retrouver son chez-soi et qu'on va prendre un bon chocolat ou qu'on va avoir un repas de midi. Et quand on le fait dans les conditions dans lesquelles nous on le fait, bon, il y a la douche, il y a un bout de baguette qu'on s'échange avec un café qu'on prend, mais quand l'entraînement est terminé à 1h de l'après-midi, on retourne à la rue. Donc c'est pourquoi comment. Donc je pense qu'effectivement, je trouve que ça donne du sens, le championnat donne du sens, la coupe donne du sens. Dès qu'on a des gens qui jouent au foot, par exemple là, ils ont sorti, il y en a un des joueurs qui a dit mais il faut faire qu'on fasse le trophée des champions, puisqu'on a eu un championnat et une coupe. Donc quelque part, il y a une espèce de mécanique des footeux qui est obligatoire. C'est-à-dire on ne fait pas de foot sans à un moment faire des matchs, on ne fait pas de matchs sans faire des coupes, on ne fait pas de coupes sans faire de championnat, on ne fait pas de championnat sans faire le trophée des champions. Donc il y a une espèce de... Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Et puis à la limite, tant mieux. Mais où est-ce qu'on met notre énergie ? Est-ce qu'on met notre énergie sur la Coupe du Monde ? Est-ce que c'est ça le plus important ? Et puis, c'est à quel niveau de valeur ajoutée on s'arrête ? Et la réflexion qu'on est en train de se faire avec l'équipe, c'est de se dire, la notoriété, on a atteint un degré de notoriété qui nous suffit pour agir. Il faudrait pas beaucoup plus pour ne pas se vendre notre âme au diable.
Vous m'avez dit, vous êtes quelle équipe, vous ?
Alors, nous, c'est Secours catholique de Paris. Paris 2e. Catholique, la vôtre.
Voilà. Dans votre équipe, il y a un joueur qui va partir.
Voilà, il s'appelle Tessa. Et il joue avec nous. Ça fait longtemps qu'il joue avec nous. Et c'est un joueur qui joue bien. Il joue en défense.
Ouais, et puis. C'est un capitaine d'équipe. Il a du talent. C'est un bon joueur. Il a fait qualifier notre équipe au championnat. On a gagné le championnat. Ah, grâce à lui. Voilà.
Pas mal.
Ouais. On espère qu'il va gagner, et c'est lui qui va nous représenter à en Afrique du Sud, voilà. On espère qu'il va gagner. Voilà.
Et là, il nous reste un match. Il faut qu'on gagne, en fait, pour qualifier. Si on perd, même match nul, on qualifie, ouais. C'est comme l'équipe de France, c'est un match de suspense.
Moi, j'ai quitté mon pays, c'est les conditions politiques. En fait, je bénéficie d'un statut d'asile politique.
T'es parti à quel âge ?
Toussaint, 38 ans, capitaine de l'équipe.
À la trentaine.
Et donc, t'as grandi, tu as fait tes études
au Togo ? Oui, au Togo, je suis né à Lomé, j'ai fait mes études à Dapan. Je suis revenu à Lomé, m'installer, faire mon commerce. Et c'est de Lomé que je suis ici. Même quand moi j'étais dans la rue ici à Paris, au lieu de critiquer, je me disais non. Il faut que je vive d'abord. Il faut que je vive. Il ne faut pas que je me détruise. Qui parlera à ma place ? Je fais face à tout ce que j'aurai comme obstacle.
C'est là que tu as connu les centres d'accueil.
Oui, oui, oui.
Benoît m'avait raconté qu'il y a eu un moment où c'était compliqué. Parce que...
Oui, c'était compliqué. J'étais en centre de détention, prêt à ce qu'on me déporte. C'était comme ça. J'étais entre la vie et la mort. Oui. Mais bon, et j'ai eu la chance d'être libéré.
Qu'est-ce qui a permis que tu sois libéré ?
Il fallait que je dise que je vais quitter la France. Je quitte parce qu'ils veulent que je quitte. Bon, qu'ils me laissent me préparer et partir. C'est ce que j'ai dit. C'est en concertation avec mon avocat. Et dès que je suis sorti, il me dit, ben, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai dit non, je ne fais pas ce que je veux. Moi, je veux les papiers. Il faut que j'aie les papiers. Sans papiers, je ne vis pas. Je ne suis rien. Je ne vais pas traîner comme ça sans pouvoir m'exprimer.
Et aujourd'hui, ta situation ?
Ça va, je travaille, j'ai une maison, j'ai... Ben, c'est peut-être trop dit, mais j'ai tout, quoi. Oui, c'est peut-être trop dit, mais j'ai tout.
Donc, tu as réussi à t'en sortir ?
Oui.
15h ? Ouais. Après ce match-là ou après l'autre d'après ?
La vérité, je sais pas.
La vérité, tu sais pas. Donc la vérité, c'est sur le tableau, je vais aller voir la vérité.
Là, on va gagner. De toute façon, on va gagner au soir.
Intérêt, hein.
Minimum.
Deuxième match, vous étiez fatigué.
Deuxième match.
Vous n'étiez pas dans le rythme. Ça allait pas. Ils étaient beaucoup plus rapides que vous.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
beaucoup. De l'extérieur, beaucoup plus rapide que vous.
Le rapide que vous.
Les occasions, c'était kiff-kiff. Mais en tous les cas, dans le jeu, dans le système de jeu, ils étaient plus rapides que vous. Il est plus vite sur le ballon. Donc le troisième match, il faut attaquer d'emblée. On organise le jeu et on lance l'attaque. Quand il y aura le prochain match, si vous jouez après, il faut aller vous échauffer. Il faut faire tourner le cœur un peu. Donc le cœur, il soit à origine. Faut pas arriver dans le match le cœur à l'arrêt. Faut que le cœur déjà il batte. Comme le ciel là-bas, regarde, ils s'échauffent là. Parce qu'ils vont jouer après, ils s'échauffent déjà. Donc là, c'est la même chose. Il faut que vous mettiez dans le rythme.
Les problèmes n'existent plus. On l'oublie dès qu'on commence à s'habiller, ça discute, ceci, cela. Oui, capitaine, tu avais fait ceci, cela. C'est comme ça. Là, il n'y a aucun problème.
Oui, vous êtes libéré sur le terrain.
Voilà, du coup... Et on finit, chacun prend sa route. Ça démarre.
Et vous avez joué ce matin ?
Oui.
Ça s'est bien passé ?
Ouais, bien. Deux matchs, deux défaites.
Et c'était la première fois que tu jouais avec les autres joueurs de l'équipe qui va partir en Afrique du Sud ? Et c'était comment ? Tu les connaissais les autres ?
Non, on ne se connaissait pas. Certains on s'est connus au cours des matchs, au cours de notre championnat. Puisque cette année, Benoît a fait de manière tellement il est ancien dans le foot qu'il essaie d'améliorer les choses. Donc maintenant, ils ont organisé un championnat. Et dans l'année, on a un match chaque mois et tout. Donc ça fait que certains joueurs, on a eu à jouer des matchs. Voilà, donc on s'est connus comme ça en flash.
Donc il va falloir vous apprendre à vous connaître.
Oui, mais ça ne servira à rien. C'est pas avec des mecs comme ça qu'il faut affronter même des Sud-Américains qui viennent de la prison. On les sort de la prison, ils vont nous battre.
Pourquoi ?
C'est des gens qui ont le foot à tout moment. Et eux, ils n'ont pas besoin qu'on les parle. Une, deux, c'est automatique. Mais nous, nos gars, il faut les réapprendre des certaines bases et qu'ils sont en train de critiquer, c'est complètement... On va faire ce qu'on peut, mais il n'y a pas espoir.
Et t'imagines ça comment ? Parce que c'est un événement.
Oui, c'est un événement. Mais c'est... Même si on est battu, qu'ils sachent que ce n'est pas une surprise, ils peuvent nous battre, quoi.
Oui, mais vous pouvez aussi peut-être tirer votre épingle du jeu.
Oui, mais... Mais moi, il y a toujours le mais. Parce que je connais trop les autres. Je connais pas l'Italie, mais je devine les mecs de la rue de l'Italie jouer, ça sera mieux que nous.
Il y a du travail.
Hein ?
Il y a du travail.
Il y a du travail, mais il n'y a pas du temps pour ce travail. Il y a certains avec qui on peut dire qu'il y a du travail à faire. Il y a aussi certains qui n'ont rien à faire. Quoi.
But there is one heritage that we as South Africans all share together, that we share as a proud nation. That is the proud and hard-won heritage of our constitutional democracy. Our multi-party democracy safeguards everything else that we inherit. Its institutions provide checks and balances against abuse of power. Die Hove, die Handvest van Rechte en die Rechtsorde beskerm ons grondliggende vryhede. Ilungelo lokuteta. Ilungelo kwezenkolo. Ilungelo lokuvota. And the freedom to choose who we want our leaders to be, and we celebrate our leaders here today. We must do all that we can to preserve and protect our democracy.
Benoît Danot, 36 ans, travailleur social, est à l'origine du football au Secours catholique. Pour lui, le sport est le moyen de retrouver des valeurs qui n'existent plus dans la rue.
La Coupe du Monde s'est mise en route en 2003. À l'initiative de deux personnes, une personne autrichienne, une personne écossaise, je crois, qui ont compris que le sport est un facteur d'intégration. On dit souvent que le sport est le troisième facteur de l'intégration après l'école et après le travail. Ce qui est logique, on va dire, pour un citoyen lambda, c'est logique que ça se déroule ainsi. Pour quelqu'un qui est à la rue, c'est un peu plus difficile. L'école s'est pas souvent bien passé, le travail non plus, en ce sens qu'il y a pu y avoir des périodes de chômage, de travail, de précarité, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, avec cette intention de pratiquer cette égalité républicaine, c'est-à-dire de permettre l'accès au sport à tous, et notamment auprès des personnes les plus démunies, on essaye de repartir du sport comme facteur d'intégration. Parce que le sport, et le football en particulier, en tant que sport collectif, il réapprend des choses que les gens n'ont plus l'habitude d'utiliser dans leur situation de précarité. Je prends quelques exemples. La prise d'initiative...
Mais de penser aux autres aussi, de pas
la capacité à soi. La capacité à coopérer, le respect de l'autorité,
oui.
De l'arbitre, de l'entraîneur, des joueurs, des adversaires. Tout ça, c'est des valeurs où, finalement, ce qui s'oppose... Enfin, quelle est la différence, en somme, c'est que dans le sport, on réapprend des valeurs collectives que dans la rue, ils n'ont plus. Dans la rue, l'individu est face à lui-même, face à sa situation. Tous les jours, il y a des problèmes à régler. Voilà. Les amitiés sont des amitiés de circonstance. Il y a rarement de vraies amitiés qui naissent entre deux personnes à la rue. Nous, on a pris le biais de repartir de valeurs collectives et de repartir du sport comme facteur d'intégration. Et à partir de là, on essaye de, j'allais dire, sur des durées plus longues, on essaye d'enclencher du travail social. Au bénéfice de leur situation, bien sûr.
Et moi, j'ai été surpris parce que j'ai appris ça déjà au début juillet. Donc début juillet, ça me laissait deux mois de marge, et en fin de compte, j'ai rien fait. Hein. En deux mois, j'ai travaillé, j'avais pas le temps. J'ai fait ce que je pouvais. Tous les papiers, en plus je me suis trompé de mairie, donc forcément j'ai perdu, comme je t'ai dit, au moins 2 semaines ou 3 semaines. On était déjà arrivé au début août, il y avait les juilletistes, les haoussiens, il y en a qui sont partis, revenus, ils me connaissaient même pas. Enfin voilà quoi, c'est tombé vraiment. Faut comprendre un peu aussi que j'étais le dernier à être au courant. Donc si j'étais au courant peut-être un mois avant les vacances, déjà j'aurais déjà eu mon passeport sur moi. Enfin voilà quoi, j'étais vachement surpris. En plus il y a plein de dossiers derrière, c'est pas évident apparemment. Pour avoir un passeport, faut attendre un mois et demi minimum.
Ouais, mais alors à la limite, t'aurais dû le demander avant.
Demander avant quoi? Mais j'avais pas mon extrait de naissance, fallait que je remonte en Picardie, fallait que je revoie ma famille, fallait que j'aille voir ma mère, demander mon extrait. C'est elle qui me l'a envoyé par courrier. Ouais. Et ça a pris encore du temps, et ça a pris 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 du temps, énormément de temps. En fait, le temps est passé, j'ai travaillé en même temps. Je faisais des 8h, 20h30, une tête comme ça, et j'étais à Compiègne, fallait que je revienne sur Paris, repartir à Compiègne, revenir, j'avais une tête. Enfin voilà, quoi, j'ai eu des imprévus qui font que ça m'a empêché de partir. Et j'ai même pas été en vacances en Algérie, je devais partir, j'ai pas été. J'ai vu mon petit frère partir, j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien. En fait, parce que je voulais aller avec lui et je pouvais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben j'ai pas de passeport, je peux pas passer. Ça veut dire que si je passe, je peux pas revenir en fait, si tu veux. Il me laisse là-bas. Familièrement parlant, j'ai merdé. Mais je sais que j'ai merdé et je sais que ça va me tenir compte maintenant pour plus tard. Comme ça, je sais que les papiers, c'est hyper important, que c'est dans les délais, il faut être ponctuel. Donc moi, j'avais pas cette ponctualité dans ma tête, quoi. Je me suis dit, mon passeport, je l'aurai, c'est sûr. Et en fin de compte, je l'ai pas eu dans les poches. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même aussi. Mais donc voilà, j'espère que l'année prochaine, un passeport, c'est valable 10 ans. Ben voilà, là, je sais qu'au moins, si je le prends le mois prochain, je suis sûr que l'année prochaine, je l'aurai dans les poches. Puis après, j'ai parlé avec Damien aussi de la pause. Il m'a dit, au niveau de la Coupe du Monde, il m'a dit que si c'était pas l'Afrique du Sud cette année, bah, ça sera un autre pays l'année prochaine. Parce qu'on peut y aller qu'une fois, en fait. On peut être sélectionné qu'une fois et participer à une équipe de France qu'une fois. Donc voilà, je vais profiter de cette chance et m'entraîner encore là pendant un an à fond. Maintenant, ça va mieux. En plus, j'ai un travail et tout. Donc moralement, ça va un peu mieux que l'année dernière déjà. Enfin, même qu'en début d'année, là. Et ça sera mieux. Je fais un peu de muscu, je cours tous les matins, je me sens mieux.
Il faut commencer, il faut cadrer les gars.
Je me sens mieux, quoi.
Toutes les positions, en tire de toutes les positions, de droite, de gauche. Voilà. Vas-y, Daniel.
C'est beaucoup de responsabilité, capitaine.
Oui. Surtout avec ces gens.
Parce que
ils sont très difficiles. Il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Les imposer, les donner des ordres tout de suite, c'est la catastrophe. Mais moi, je commence toujours à zéro et je dis c'est bon. Et des fois, je décide, à certains, je ne les dis rien jusqu'à la fin. Et après nos douches, avant de partir, s'il y a l'occasion, je les parle maintenant de leur faute. Tout de suite, ils acceptent, ils me disent, oui, ça va, capitaine, je ne ferai plus. C'est tout, ils savent que je suis là, ils ne font plus d'erreur. Là, ils sont prêts à rester sur le banc de touche pour que moi je joue. Tous, presque.
Oui, tu jouerais tout seul sur le terrain.
Non, mais si on demande à... Ils font leur équipe et on dit, bon, voilà, Toussaint est là. Qui va rester sur le banc de touche pour qu'il joue? Sûrement, il y a 3 ou 4 qui vont lever la main. Voilà, et je n'arrête pas de les dire que c'est pas moi qui joue, c'est vous qui jouez. Respectez-vous, c'est tout. Respectez-vous.
Et quels sont les autres joueurs avec qui tu aimes bien jouer dans l'équipe, avec qui ça se passe bien?
Il y a Hardy, Tiberou, Félix, c'est des gens que depuis qu'on s'est connus et sur le terrain on ne se parle même plus, quoi. C'est le silence et on connaît nos positions. Ils savent ce que je peux faire et ils savent comment se positionner pour avoir. Donc quand je joue avec eux, on n'a pas à dire un ballon pour que l'adversaire nous voie. Non, c'est le silence. Et je trouve ça très bien, quoi. Et c'est ce qui fait que ils ont besoin de moi, parce qu'avec moi, je sais ce qu'ils veulent. Et tout de suite, ils marquent des buts et ils sont contents. Voilà. Félix, c'est un arrière. Mais quand je suis là avec lui, il joue sa défense très bien. Et il finit satisfait. Il ne fait pas d'erreur. Je n'arrête pas de lui dire, ne sous-estime personne. Tu sais, à des moments, il se croit trop fort et il essaie de faire certaines choses. Et moindre erreur, ça paye. Voilà. Pour gagner, il faut gagner. Il ne faut même pas laisser de chance à l'adversaire. Voilà. Tu gagnes 5 s'il marque un but. Ça te fait un de moins. C'est rien. Tu gagnes 5, c'est 5-0. Oui. Tu es maître, c'est tout. J'aime bien ça. 1-0, un bon match. 2-0, 2-1, c'est des bons matchs.
Bis, la jambe droite. Merci. Ouais, ouais.
Pour des matchs de 4 contre 4 sur un petit terrain, donc il n'y a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de souffrir, c'est attaque-défense. Donc si eux ne sont pas bien échauffés au départ, au moins de faux mouvements, ils risquent le claquage. Quoi. Je crois que c'est deux fois 7 minutes sur un petit terrain. Donc, c'est 3 joueurs plus un gardien, donc ça va extrêmement vite. Quoi.
Je pense que l'élément déclencheur de départ, c'est le football.
Benoît, du Secours catholique.
C'est le football comme sport préféré, comme sport dans lequel on a envie de progresser, dans lequel on a envie de se faire plaisir. Voilà, après, c'est effectivement des contraintes qui sont liées à la vie quotidienne. Ce qu'on leur propose, on leur propose de la projection. C'est-à-dire on leur propose un championnat sur l'année, éventuellement la participation à une Coupe du Monde, un tournoi interassociatif tous les mois de juin chaque année, et des entraînements au milieu de tout ça. Donc on leur propose de s'intégrer, et ils signent une charte d'ailleurs au début de chaque saison, au mois de septembre, comme quoi ils s'engagent à participer au nom d'une équipe à toute une série de compétitions. Ce qui n'est pas du tout le cas dans leur quotidien. Le quotidien qui est le leur... ne serait-ce que dans la satisfaction des besoins vitaux, se doucher, se vêtir, se nourrir, parquer ses bagages quelque part, etc. C'est des démarches qui sont répétitives, qui ont lieu chaque jour, qui doivent avoir lieu chaque jour, à condition qu'on s'y raccroche, à condition qu'on ait envie de prendre soin de son corps, à condition qu'on ait envie de se nourrir, etc.
Oui, de se battre tous les jours.
De se battre tous les jours, voilà. Mmh. Et ça, c'est la survie du quotidien. Mmh. Et là, je ne parle même pas de réinsertion. Parce oui, que si oui. On parle simplement de la satisfaction des besoins vitaux, on se rend bien compte que déjà ça leur prend un temps fou et que ça laisse pas beaucoup de place pour le reste. Mmh. Après, on peut discuter du reste et dire est-ce qu'ils sont prêts, au sens des politiques sociales, à se réinsérer par le logement ou par l'emploi. C'est une question difficile, très peu le sont. Parce que la rue est difficile, parce que la rue désocialise, parce que la rue broie l'individu physiquement, psychiquement, et qu'à chaque fois, plus le gars passe du temps dans la rue, et plus il est difficile, plus il est coûteux, plus il est long, le travail d'accompagnement qu'on va devoir faire avec lui, ne serait-ce que pour la réinsertion sociale, c'est-à-dire pour l'accès aux droits, pour éventuellement l'accès au logement, et des choses comme ça, sans forcément parler de formation professionnelle ou de travail, contrat aidé ou autre.
Donc ceux qui sont là et qui viennent finalement jouer le week-end, qui viennent taper le ballon au polygone ou ailleurs, eux sont peut-être déjà plus avancés dans une démarche de réinsertion. Enfin, où est-ce qu'ils en sont eux finalement?
Ben, ils sont pas tellement différents des autres. Ce qui les distingue, c'est l'envie de jouer au football. Il n'y a pas d'obligation, enfin nous au Secours catholique en tous les cas, On a des centres d'accueil un peu partout sur Paris, on a des centres d'hébergement, et ce sont ces endroits-là qui permettent à un moment donné de répondre à la vocation d'une personne de jouer au football. On lui dit, tiens, voilà, il y a un rendez-vous tous les samedis matin à tel endroit, tu y rencontreras des joueurs d'une autre, d'une équipe, et puis sache qu'il y a des entraînements, qu'il y a des matchs, des compétitions, etc. Ce qui les distingue, c'est peut-être, partant de cette passion du football et de l'envie de pratiquer ce sport, c'est de s'inscrire dans la durée, c'est d'être motivé pour continuer. Et ça, effectivement, la motivation, c'est quelque chose sur lequel on travaille, parce que, enfin, j'ai envie de dire, quelqu'un qui pratique le football, ne serait-ce qu'un samedi ou deux comme ça, il fait un essai au début, et en général, il revient. En général, il revient. Quand il arrête, c'est que sa situation a évolué. Soit il déménage, soit il rejoint une autre équipe, soit il arrête le football, soit c'est trop dur de dormir le vendredi soir dans la rue et de venir le samedi matin à l'entraînement. Il y a des loupés, il n'y a pas d'obligation de participation. Simplement, ce qu'on souhaite, nous, à travers cette charte, c'est de dire, voilà, nous, on compte sur vous tout au long de l'année, avec cette équipe, pour des entraînements, des compétitions. Et après, en parallèle de ça, tout au long de la semaine, il y a des rendez-vous qui sont pris, à leur demande, bien entendu, parce qu'on ne force pas la chose. Le travail social, c'est pas un travailleur social qui dit à l'autre, il faut que tu t'en sortes. Le travail social, c'est une confrontation, c'est une relation qui se nourrit entre deux personnes et qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'élaborer un projet en commun. Pour moi, c'est un peu la définition du travail social aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas. Non. Parce qu'on est surtout dans l'accès aux droits, on est surtout dans la satisfaction des besoins vitaux, dans les prestations proposées dans les institutions. Alors que si on veut qu'il y ait une vraie demande et un vrai projet de vie qui s'élabore, d'abord il doit s'élaborer, il doit venir de la personne elle-même. Le travail social, c'est aussi la notion de progressivité. Il y a des allers et retours, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Et le travailleur social, il doit mettre les filets aux endroits où il faut pour éviter que la personne retombe à chaque fois. Donc c'est un peu le garde-fou, le travail social. Le travailleur social, il est un peu garde-fou dans ce sens.
Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça ?
Moi, ça fait une petite quinzaine d'années que je fais ça. Et que je fais ça uniquement avec ce public. J'ai pas travaillé avec d'autres publics avant. J'ai fait du travail social classique.
C'est quoi le travail social classique ?
Le travail social classique, c'est de recevoir les gens et remplir un cahier des charges, en quelque sorte. Donc l'accès aux droits, les prestations, etc. Ensuite, je travaille dans différents endroits et je suis revenu au Secours catholique après y être passé au début des années 90 comme objecteur de conscience. Et c'est à ce moment-là que, à plusieurs, nous avons monté l'équipe de foot, la première sur Paris, s'agissant des personnes à la rue, qui n'avaient pas, j'ai envie d'insister, accès au sport. Parce que l'accès au sport, d'un point de vue officiel aujourd'hui, c'est une licence, et pour avoir une licence, il faut des papiers. Donc l'accès au sport, on l'a rendu possible par le biais associatif, et par des activités que nous avons montées. En général, l'envie est commune. S'il y a une envie de pratiquer le football, l'envie, elle vient souvent de la personne elle-même, de la personne en difficulté. Et ça a été le cas en 93, quand on a mis l'équipe de foot, quand on a lancé l'équipe de foot, elle a démarré parce que quelqu'un de la rue que j'avais rencontré place de la République en 93 pendant l'hiver, nous a dit ça serait bien pendant les week-ends, qui est un temps difficile à passer pour nous, qu'on s'occupe, et en l'occurrence, qu'on fasse un peu de sport. Et il pensait déjà au football.
Ça à quelle heure ça, il nous a dit 18h30.
C'est pour faire quoi?
C'est pour présenter l'équipe de France qui est dans le sud.
Non, moi, je ne peux pas.
Hein?
Je ne peux pas.
C'est chaud.
Maman
dit qu'il ne peut pas venir. Comment ça va faire pour ce soir?
Je dis ce qu'il faut, ce qu'on fera. Moi, je vais téléphoner à Benoît tout à l'heure. Je lui dis qu'il faut qu'on se voit avant que la rencontre commence. Donc tu viens ce soir, comme je t'ai dit, à 18h.
Ouais. Devant l'église.
Et on en parle avec Benoît, ok?
D'accord.
Comme ça, on mettra tout à plat, on mettra tout machin, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par la suite. Ok?
Ouais. Ouais.
Donc ce soir à 18h. Donc le vestiaire numéro 6, c'est là-bas, son petit vestiaire.
Donc, vestiaire numéro
6.
Qui est là, par là.
Ah. Ok. Tu as fait ramener des trucs à changer?
Jean-Philippe Danivillé, directeur de la communication au Paris Saint-Germain.
Moi, je veux également démontrer que nos associations de supporters savent faire autre chose que de se battre, que colporter une image qui est fausse, parce qu'elles font autre chose dans la réalité. Elles intègrent aussi des gens qui n'ont pas de moyens, elles ont un rôle éducatif, on leur tire souvent dessus, à juste titre, hein, parce qu'il y a des problèmes, mais toutes les actions un peu méconnues d'un point de vue caritatif sont passées au second plan parce qu'on ne garde que le pire des associations sans penser au meilleur, alors que la majorité des sympathisants du PSG sont des gens normaux qui aiment leur club, qui ont une passion, c'est le football et Paris. Et on est là aussi pour dire aux gens, être supporter du PSG, vous voyez, c'est aussi avoir un rôle social qui peut exister. Ça, c'est vachement important.
Et donc, il y a deux Supra d'Auteuil qui partent avec eux ?
Oui, deux Supra d'Auteuil, Hicham et Nadej, qui ont suivi le projet de A à Z, avec qui on a travaillé, et sans qui, je pense, le projet n'aurait pas pu aboutir, parce que ils ont servi en fin de compte d'interface entre moi et le collectif Remise en Jeu, et puis on a travaillé beaucoup sur ces questions pour faire avancer le sujet d'un point de vue financier, matériel. Donc moi je les remercie. Honnêtement, c'est des choses qui sont intéressantes et j'espère que même pour eux, ils en garderont un grand souvenir parce que ils partent pas en vacances. On n'offre pas les vacances à ces gens. En tout cas, moi, c'est pas l'impression que je veux donner. Vous voyez, des actions dans ces domaines.
Oui, c'est intéressant. Ça dépasse l'image classique qu'on a des supporters.
Oui, mais parce que l'image qu'on veut bien avoir, c'est celle de deux groupes qui se battent sur une aire d'autoroute. Et il n'y a pas que ça. Ça existe. Il n'y a pas que ça à Paris. Nous, quelles que soient les différences dans les tribunes, parce qu'il existe des différences entre Auteuil et Boulogne, c'est pas la même façon de supporter, mais je veux dire, il faut tous être derrière son équipe, l'équipe du PSG. C'est ça, on peut être différent, il est normal qu'il y ait des différences. Après, il y a des différences supportables et d'autres qui le sont moins. Celles qui le sont moins, on les traite, comme je le disais tout à l'heure. Les autres, il faut les soutenir pour faire de Paris un club attractif, et je pense que ça l'est. Parce que je pense que le milieu supporter parisien peut être fier de ce qu'a fait les Supras. Voilà,
ah oui, complètement.
Sortir, donner du rêve à une dizaine de mecs, c'est bien. Et moi, je suis très fier de ça, même si, je veux dire, dans 10 ans, on l'aura fait, je veux dire, c'est unique. Faire une fois une chose, c'est bien. Il faut croire en un projet. Donc peut-être que les gens ne croient pas encore, mais le fait que cette équipe de France participe dignement et représente la France et quelque part le PSG, ça va peut-être ouvrir les yeux à d'autres et donner de l'ambition à d'autres. Et si ça peut donner une autre dimension à cette compétition, ça serait vachement bien. Parce que là, c'est la fin de l'été, on va voir réapparaître les tentes, on va voir réapparaître des problèmes. Si l'hiver est rude, on va se reposer des questions comme d'habitude, parce qu'on n'aura peut-être pas tous anticipé un certain nombre de problèmes. Il y a plein de domaines sur lesquels on doit tous travailler, l'enfance, l'exclusion, les discriminations, il y a plein de domaines, en tout cas qui touchent le PSG sur lesquels nous on travaille également au-delà de notre vocation première qui est déjà de gagner un match. On a gagné un hier, au-delà de ça, je veux dire, c'est vrai, je pense qu'on a un rôle social à mener, on essaye de le mener, je vous dis, on mène des actions dans le domaine de l'emploi, de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre la discrimination.
Moi je savais pas que
PSG menait toutes ces actions. Ouais. Et que...
Ah non, on mène des actions.
C'est une bonne surprise.
Interroger la LICRA, interroger Enfance et Partage, interroger Paris Foot Guerre. J'en ai le premier club de football à avoir fait disputer sur sa pelouse un match je veux dire, de gay, en levée de rideau, dans le football, qui est un milieu très macho. Vicage Dorasso est partenaire officiel de Paris Foot Gay. On a fait une séance de photo officielle où on s'affiche avec la LICRA et Paris Foot Gay. C'est sur notre site internet. Je veux dire, c'est pas démago, c'est des actions concrètes. Donc il y a plein de domaines dans lesquels on travaille.
La veille du départ, dernier entretien avec Benoît Dano.
Il va y avoir la réalisation d'un rêve, à partir, comme on disait tout à l'heure, de ce que chacun a comme... comment chacun a construit ce voyage dans sa tête et comment maintenant ça va se réaliser dans la réalité. Donc il va y avoir la réalisation de ce rêve en commun, à partir du sport et de tout ce qui va se passer autour. Il faut surveiller le retour à la réalité, parce que je crois que la réalité va être inhibée pendant un certain temps, parce qu'ils vont mener une vie normale. Ils n'auront pas le souci de manger, ils n'auront pas le souci de se vêtir, ils partent avec des vêtements, ils n'auront pas le souci de se doucher, il y aura des douches sur place, de trouver un hébergement, etc. Donc pendant 15 jours, ils vont vivre comme un ADF, comme un avec domicile fixe. Et ensuite, il va y avoir ce retour à la réalité qui était la leur quand ils sont partis, avant de partir en Afrique du Sud. Alors, la première des choses à faire, c'est d'en prendre conscience. C'est de nous préparer, en tant qu'encadrants, à faire en sorte qu'il n'y ait pas un atterrissage trop difficile dans cette réalité qui va être le jour de leur retour. Donc là, on a commencé à travailler, enfin on a commencé, je pense que même on a clôturé le travail de ce point de vue-là. Il est clair qu'à l'arrivée à l'aéroport le 3 octobre, il n'y en a pas un qui sera dans la rue. Il y en a certains qui ne le sont pas en ce moment, qui sont en squat, qui sont en hôtel, qui sont dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, qui sont, on va dire, entre les hébergements, dans différents types de logements, etc. Mais ce qu'on va essayer de préparer, c'est pour ceux qui, effectivement, jusqu'à présent, étaient plutôt dans une situation très très précaire, faite d'aller-retour entre les hébergements et la rue. Donc là, on a pris, au sein du collectif Remise en Jeu, des engagements très clairs entre les encadrants pour qu'il n'y ait pas ça au retour. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut préparer le joueur à ce retour-là aussi.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire
que le joueur, en même temps, il faut le préparer et l'encourager à vivre un beau rêve. En même temps, il faut qu'il soit préparé à ce retour. Ça sera un travail qui se fera sur place. On n'a pas voulu l'entamer avant. Je pense qu'il sera fait là-bas par les deux encadrants sociaux. Mais en tous les cas, il y aura un vrai travail de communication fait par rapport à ça. Ensuite, j'ai envie de dire, il va y avoir de notre part une surveillance individuelle. Et là, chaque institution est responsabilisée par rapport au joueur qu'elle a fait partir. C'est que le joueur, en rentrant, non seulement il va y avoir une mise à l'abri pendant un certain temps de ce joueur, pour celui qui avait des difficultés au départ, mais il va y avoir aussi un travail de relation, un travail d'accompagnement qui va être important pour éviter que le joueur se retrouve seul et livré à lui-même. Il va y avoir, en tous les cas, on va dégrossir le rêve après. On va le rendre plus paisible, on va participer à une action qui consiste à l'inscrire dans la mémoire, mais dans un côté positif de la tête, on va dire.
Oui, dans le souvenir.
Dans le souvenir.
Dans le bon souvenir, oui.
Voilà. Et puis après, on reviendra sur nos pieds de la réalité et avec la situation qui sera la sienne à ce moment-là pour que ça soit le moins dramatique possible, parce qu'il faut surveiller ces atterrissages pour éviter qu'il y ait des décompensations, pour éviter qu'il y ait une suralcoolisation, parce que... Et c'est pas forcément, le plus temps n'est pas forcément immédiatement à venir les deux ou trois jours qui vont succéder, parce qu'ils vont revenir avec ce rêve et ça va les porter pendant un certain temps. Je pense que c'est après que ça va être dur. C'est les semaines à venir que ça va être dur. Peut-être les mois à venir que ça va être dur. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé sur la question des hébergements à la rentrée et sur la question de cet accompagnement social qui sera nécessaire et qui sera individualisé par chaque institution pendant un certain temps pour qu'il y ait ce retour dans la réalité sans dommage pour lui, sans dommage pour la personne.
Mais en tenant compte de ça, est-ce que ça a participé, on va dire, à la sélection des joueurs ?
C'est-à-dire qu'on a établi des critères au départ, ouais, avec les joueurs, avec les encadrants, les associations. C'était clair qu'il valait mieux avoir des papiers pour partir en Afrique du Sud.
Et pour revenir.
Il y avait une recommandation du comité d'organisation de la Coupe du Monde, la HWC, pour qu'il y ait simplement des joueurs qui ne soient pas déjà venus, donc une présence unique dans une compétition unique. Nous, on avait souhaité que sportivement, au moins la personne connaisse un peu le football, les pratiquer dans le passé ou la pratiquer depuis un certain temps dans les associations qui composent le collectif. Et puis un critère qui était à mon avis fondamental, c'était la personnalité du joueur en question, qui devait pouvoir non seulement voyager, s'intégrer à un groupe nouveau, à une culture nouvelle, et ne pas se mettre en danger à 13 heures de vol d'ici, à l'autre bout du monde. Donc effectivement, on a eu des réunions à ce sujet, on a débattu, on a présenté nos joueurs, chaque institution a présenté son joueur, et la décision a été prise collégialement. Donc on a minimisé les risques, effectivement. On n'aurait pas pu prendre quelqu'un depuis 6 mois à la rue avec une consommation de 10 litres d'alcool par jour.
Bien sûr.
J'en ai discuté pas plus tard que ce matin avec un gars qui regrettait de ne pas être parti en Afrique du Sud. Et quand je lui expliquais un peu le voyage, un peu comment allait se dérouler la compétition là-bas, il m'a dit, écoute, de toute façon, ça ne concerne pas, je prends pas l'avion. Puis en plus, tu me connais, je bois pas mal, donc ça m'aurait pas forcément été de partir là-bas. Ils sont conscients de leur état. Ils sont conscients de leur état. Donc la sélection des joueurs, elle est parfois un peu difficile parce que dans un lot de 10, 15, 20 joueurs par équipe, c'est pas forcément facile d'en choisir un. Et en même temps, à partir des critères qu'on a établis, on peut rajouter d'autres critères. Nous, le joueur qu'on a sélectionné dans notre équipe, c'était aussi pour le féliciter de toutes les démarches qu'il avait accomplies depuis 2003, année pendant laquelle il a failli prendre l'avion et être conduit au Togo. Oui, donc il y a eu 3 ans de démarches, il y a eu 3 ans d'accompagnement social, de relations de confiance, de langage de vérité entre lui et nous. Et puis nous, on a rajouté ce critère-là pour essayer de choisir plus facilement un joueur plutôt qu'un autre. Et on s'est dit, mais ce joueur... on a aussi, nous, associations, nous, bénévoles, salariés, etc., on a aussi envie de le remercier d'avoir fait tout ce qu'il a fait, parce qu'il est resté mobilisé, il est resté dans un bon état d'esprit, il nous a aidés quand il fallait. Enfin bon,
c'est tout ça, voilà, c'est ça.
C'est tout ça.
Ouais.
Ouais.
On va retrouver demain.
Que vous allez retrouver demain, avant le décollage.
Exactement.
Ouais. Bon. Et bon voyage, Sacha.
Merci.
L'objectif du maximum, la 24e place. Pas au-delà de la deuxième moitié de classement, d'accord ? Et si vous êtes dans les 10 premiers, c'est encore mieux. Et rappelez-vous, la première place, c'est l'Elysée.
C'est une blague, c'est où ?
C'est une blague.
C'est l'Elysée avec Jacques Chirac, si vous êtes premier. Bon voyage, les gars. Amusez-vous bien. Bon voyage. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Salut.
Aéroport Charles de Gaulle, départ pour le Cap en compagnie des joueurs sélectionnés. Hamid, Joao, Daniel, Eyang, Brice, Toussaint, Christian et Areski.
Oula, oula.
Petit passage dans le tube.
C'était la Coupe du Monde des sans-abri, première partie.
70F.
Merci à Jean-Luc, Benoît Dano, Toussaint, Karim et Jean-Philippe Danilé. Mixage, Jean Richard Dufour. Réalisation, Nathalie Battus.
Are you talking to me?
Un documentaire proposé par Sacha Guillaume.
Welcome on board South African Airways. As your safety is our main concern, we would like to familiarize you with some of the safety features of this aircraft. Even if you're a regular traveler, it would be in your interest to take note of these important safety features. Storage for your carry-on luggage is provided either under the seat in front of you or in the overhead locker. For your own safety and that of the passengers around you.
C'était Footballeur SDF, première partie. Un numéro de Sur les docks de Sacha Guillaume, réalisé par Nathalie Battus, diffusé pour la première fois le 19 octobre 2006, avec notamment Jean-Philippe Danivillé, Benoît Dano, Jean-Luc, Toussaint et Karim. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture à la page des nuits ou sur l'application Radio France.